Le journal est présenté par Stanislas Vazak. Bonsoir.
Bonsoir. Nouvelles élections législatives en Israël. Demain, Benjamin Netanyahou joue sa survie politique dans un paysage électoral très éclaté. Dossier dans ce journal avec notre correspondant à Jérusalem, Frédéric Mettezo. Le marché mondial du pétrole déstabilisé par l'attaque contre des installations pétrolières ce week-end en Arabie Saoudite. En France, les prix à la pompe pourraient rapidement prendre 5 centimes au litre. L'analyse de l'expert Francis Perrin dans cette édition. Des familles de femmes et d'enfants de djihadistes français retenus en Syrie portent plainte contre le ministre des Affaires étrangères. Elles reprochent à Jean-Yves Le Drian de ne rien faire pour aider leurs proches. Les explications à suivre de Florence Turme. Enfin, plusieurs milliers de personnes dans la rue cet après-midi à Paris contre la future réforme des retraites. Avocats, médecins, pilotes ou hôtesses, tous défendent leur caisse autonome de retraite menacée par la réforme. Le reportage de Marie Viennot. Pour la deuxième fois en cinq mois, les Israéliens votent demain pour élire leurs députés. En avril dernier, Benjamin Netanyahou semblait avoir remporté haut la main le scrutin avec ses alliés de droite. Mais le premier ministre israélien a échoué à former une coalition, d'où ce retour précipité aux urnes. Alors avant de retrouver notre correspondant à Jérusalem, je vous propose d'écouter Rina Matzlia. C'est la journaliste politique vedette de la chaîne de télé la plus regardée d'Israël. Elle connaît par cœur la politique israélienne et samedi soir encore, elle interviewait tous les grands leaders. Rina Matzlia n'a jamais vu une campagne électorale comme celle-là.
Les sondages ont échoué la dernière fois. Même si on veut parler sur les sondages, on ne voit rien de très clair. Parce qu'on n'a pas ni Gantz ni Netanyahou pour créer un gouvernement. On ne sait pas vraiment la participation. Et ça, c'est quelque chose de très important.
C'est la première fois que vous voyez une élection aussi compliquée ?
Compliqué, non, mais imprévisible et dégoûtante, peut-être.
Oui. Dégoûtante ?
Oui, dégoûtante.
Pourquoi ?
Parce que les élections qui viennent un après l'autre, les politiciens deviennent plus nerveux, plus agressifs. Des fois, les journalistes aussi. Ça fait que les expressions sont plus violentes. Ça fait que l'atmosphère est plus moche. Ça fait que on se dégoûte.
Frédéric Mettezo, bonsoir.
Bonsoir.
En direct de Jérusalem, Frédéric, alors c'est vous qui avez interviewé notre consoeur israélienne. Pourquoi parle-t-elle d'une élection indécise ?
Parce qu'il y a 120 sièges de députés à la Knesset, Stanislas. La majorité est donc à 61 sièges. Mais avec 9 listes susceptibles d'avoir des élus, il risque d'y avoir éparpillement demain. Ni le Likoud, ni Bleu Blanc ne pourront faire 61 sièges tout seuls. On ne sait même pas lequel des deux arrivera en tête. Et comme le spectre est très large, de l'extrême droite à la gauche radicale, avec des juifs laïcs, des juifs religieux et une liste arabe, eh bien les possibilités de coalition sont nombreuses.
Frédéric, quels sont les grands thèmes qui font débat ?
Alors le grand thème, c'est Benjamin Netanyahou lui-même. Et encore une fois, il dramatise sa campagne pour mobiliser ses troupes. Par exemple, hier soir, il ne s'est pas rendu au grand meeting près de Tel Aviv, expliquant que des sondages le donnaient battu. Mais à force d'être omniprésent dans la politique et dans les médias et d'être régulièrement mis en cause dans les affaires financières, ses concurrents l'accusent de démagogie et d'autoritarisme sur le refrain de « 10 ans, ça suffit ». Un thème sociétal fait aussi débat. La place de la religion dans la société. Netanyahou est traditionnellement allié au parti religieux. Le nationaliste laïque Lieberman, lui, souhaite instaurer le service militaire pour tous les religieux, quand Bleu Blanc propose de créer un mariage civil.
Frédéric, on l'a noté, pourquoi notre consoeur israélienne parle-t-elle d'une campagne dégoûtante ?
Eh bien parce que c'est la deuxième campagne en cinq mois et demain, beaucoup de candidats jouent leur crédibilité, voire leur avenir. Les vidéos vachardes ou excessives se succèdent sur les réseaux sociaux. Netanyahou accuse la gauche et les Arabes de vouloir voler l'élection. Bleu Blanc accuse Netanyahou de sacrifier la sécurité de l'État pour échapper à une inculpation judiciaire. Lieberman accuse les religieux de vouloir faire basculer Israël dans l'obscurantisme. Et les religieux du chasse promettent une récompense divine si les gens votent pour eux.
Frédéric Mettezo, merci. Je renvoie à votre article à lire sur franceculture.fr. Israël, une mosaïque d'électeurs aux intérêts divergents. Ou comment votent les cols bleus de la périphérie, les orthodoxes de tous bords, les colons juifs, les arabes israéliens, les russes entre guillemets, ou bien les francophones. Et comment les politiques s'adaptent à cette mosaïque électorale. Ces élections israéliennes interviennent à un moment de très forte tension dans le golfe Persique, tension ravivée ce week-end par la double attaque aux drones contre des installations pétrolières en Arabie Saoudite, attaque revendiquée par les rebelles houthis du Yémen, soutenus par le régime iranien. Pour la coalition saoudienne qui affronte les rebelles, l'armement utilisé ce week-end est bien de provenance iranienne. Déclaration aujourd'hui du porte-parole de la coalition, le colonel saoudien Al-Maliki. Franck Cognard, une question se pose ce soir. Comment expliquer le succès de ce raid dans une région sous surveillance radar américaine avec les moyens militaires dont dispose l'Arabie Saoudite?
D'abord, la zone à surveiller autour des installations pétrolières saoudiennes dans le désert est immense. Ensuite, que les 10 drones viennent du Yémen, comme le revendiquent les rebelles houthis, ou qu'ils aient décollé d'Iran ou d'Irak, comme le pensent les États-Unis, il reste très compliqué d'intercepter des drones, malgré la technologie, malgré les 50 à 60 milliards de dollars dépensés chaque année par l'Arabie Saoudite dans sa défense.
La protection par radar...
Éric Dénessé, le directeur du Centre français de recherche sur le renseignement.
Elle est généralement faite pour lutter essentiellement contre des aéronefs, ensuite contre certains types de missiles. Donc encore faut-il avoir des radars qui sont particulièrement préparés à l'interception des drones. On arrive souvent à les détecter, mais ce n'est pas toujours à temps. C'est-à-dire qu'un radar, c'est bien, mais il faut encore également qu'il y ait des moyens anti-aériens pour détruire les drones qui arrivent au-dessus de l'objectif. Les dispositifs à mettre en œuvre sont quand même pas si simples que cela.
Et il y a escalade. Les Houthis ont déjà frappé des installations pétrolières saoudiennes en mai, en juillet et en août, et ils ont prévenu samedi que d'autres attaques étaient en préparation.
Franck Cognard, merci. Conséquence immédiate de ce regain de tension dans le Golfe, les prix du pétrole s'envolent, plus 10% ce matin à l'ouverture des marchés. L'attaque de ce week-end a obligé l'Arabie Saoudite à réduire de moitié sa production, ce qui représente une diminution d'environ 6% de l'approvisionnement mondial. Résultat, en France, les experts s'attendent à une hausse des prix du litre à la pompe entre 4 et 5 centimes dans les 10 prochains jours, car c'est tout le marché mondial du pétrole qui est déstabilisé, comme nous l'explique Francis Perrin, directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de recherche internationale et stratégique.
Ce qui s'est passé a entraîné une chute de la production saoudienne de 5,7 millions de barils par jour. Ça représente 60% de la production saoudienne à son niveau de avant les deux attaques. Donc moins 60% pour la production saoudienne, qui est le troisième producteur mondial de pétrole, c'est énorme. Sur les marchés pétroliers, tout le monde s'affole. Et les Saoudiens savent très bien qu'ils ont intérêt, pour rassurer les marchés autant que faire se peut, à ne pas rester trop longtemps complètement silencieux. Mais avant de parler, il faut évidemment qu'ils aient évalué l'ampleur des dommages. Ça ne se fait pas en une minute ou en une heure. Seul Saudi Aramco est en mesure de dire « voilà l'estimation que nous avons sur la durée des réparations et le temps qu'il nous faudra pour monter à nouveau en puissance en termes de production ». Autre question importante, les Saoudiens ont dit qu'ils allaient utiliser leur stock de pétrole sur leur territoire et parfois aussi à l'étranger en Asie. Combien vont-ils prélever sur ces stocks ? Et quand? Beaucoup, beaucoup d'incertitudes.
Francis Perrin de l'IRIS, il répondait à Anne-Laure Jumet. L'Europe attend toujours de nouvelles propositions britanniques sur le Brexit. La rencontre aujourd'hui à Luxembourg entre le Premier ministre Boris Johnson et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker n'a donné aucun résultat tangible. Les deux hommes se sont malgré tout engagés à intensifier leurs discussions pour trouver un accord. On retrouve à Luxembourg notre envoyé spécial Pierre Benazé.
À l'issue de ses entrevues à Luxembourg, Boris Johnson affirme toujours espérer pouvoir conclure un nouvel accord, mais il n'a pas varié d'un iota sa position. La date de sortie reste celle du 31 octobre. Il n'y aura pas de second référendum et le filet de sécurité pour l'Irlande reste selon lui inacceptable. Ni de mystère dans ces conditions. Qu'après son déjeuner avec Boris Johnson, Jean-Claude Juncker est tenu à rappeler une énième fois qu'il était maintenant de la responsabilité du gouvernement britannique de proposer une solution qui fonctionne. Même sans cloche de la part du Premier ministre luxembourgeois, Xavier Bettel, il n'a plus que regretter l'absence de propositions tangibles, légales et écrites. Il a d'ailleurs dû assurer seul la conférence de presse finale à côté d'un pupitre vide, car Boris Johnson avait filé à l'anglaise après leur entrevue. La présence d'une foule très bruyante, de manifestants hostiles à sa personne et au Brexit, se trouvant à quelques mètres à peine, n'est sûrement pas étrangère à son départ précipité. Mais pendant que Boris Johnson s'engouffrait dans sa voiture, Xavier Bettel n'a pas mâché ses mots pour critiquer le gouvernement britannique, l'accusant même de prendre les citoyens en otage. Aucun progrès n'est donc ressorti de ces rencontres, ce qui est de très mauvais augure pour les espoirs de Boris Johnson de négocier un nouvel accord, alors que le Parlement européen s'apprête à voter une résolution écartant toute possibilité d'un accord sans filet de sécurité pour l'Irlande.
Pierre Benazé depuis Luxembourg-Ville, merci. Quand un ministre des Affaires étrangères est visé par une plainte, Jean-Yves Le Drian est attaqué en justice par des familles de femmes et d'enfants de djihadistes français retenus en Syrie. Elle lui reproche de ne rien faire pour venir en aide à leurs proches prisonniers dans des camps kurdes. Florence Thion, bonsoir.
Bonsoir.
La plainte a été déposée auprès de la Cour de justice de la République, seule instance habilitée à juger des actes commis par un ministre dans l'exercice de ses fonctions.
Oui, il s'agit d'une plainte pour omission de porter secours, une nouvelle étape judiciaire. Après les nombreux recours engagés, notamment cette autre plainte contre l'État français devant le Comité des droits de l'enfant aux Nations Unies. Depuis le mois de mars dernier, la France a rapatrié 17 enfants, en majorité des orphelins, mais ils sont encore près de 200 retenus, certains avec leur mère, dans des camps kurdes du nord-est syrien. Des enfants en situation de péril dénoncent les familles qui les réclament. Cette plainte concerne une vingtaine d'enfants. Les trois quarts d'entre eux ont moins de 6 ans. Ils vivent sous des tentes où la température est montée à 50 degrés au cours de l'été, dans des conditions d'extrême insalubrité et un climat d'insécurité croissant, insiste l'avocate Marie Dosé, qui défend les familles en question.
Un enfant de 12 ans est mort la semaine dernière, un enfant français, dans le camp d'Alol. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Je vois, moi, depuis presque des années, pour certains, les enfants grandir, ou plutôt ne pas grandir. Je vois les carences, je constate ces blessures qui s'ancrent, qui ne sont pas soignées, les traumatismes psychologiques et psychiatriques qui ne sont pas pris en considération. Ce qu'il se passe dans ces camps depuis 6 mois pour certains, depuis 2 ans pour d'autres, ça n'est pas l'œuvre de Daesh, c'est l'œuvre de la France. Concernant ces enfants innocents qui n'ont pas demandé à vivre, à naître et à rester au Kurdistan syrien. Donc, à ce stade, je ne peux pas concevoir que le droit ne puisse pas contraindre un ministre à sauver des gamins innocents. À partir de là, nous n'avons pas eu d'autre choix que de saisir la Cour de justice de la République.
Ces mineurs ne sont pas sous le contrôle effectif de la France, déclare pour sa part le ministère des Affaires étrangères. La commission des requêtes de la Cour de justice de la République va maintenant devoir se prononcer sur la recevabilité de ces plaintes. Elle devrait le faire d'ici la fin du mois de novembre.
Florence Thurme, merci. On passe à l'actualité sociale et la mobilisation contre la réforme des retraites qui prend de l'ampleur après les transports parisiens vendredi. Ce sont les professions essentiellement libérales qui étaient appelées aujourd'hui à se faire entendre. Plusieurs milliers de personnes ont défilé cet après-midi à Paris entre Opéra et Nation. Beaucoup d'avocats dans le cortège, mais aussi des médecins ou des infirmiers. Présents également en nombre des professionnels du transport aérien, pilotes, hôtesses ou stewards. Les organisateurs annoncent 20 000 manifestants. Alors tous sont venus défendre leur caisse de retraite autonome. Car avec la mise en place du régime universel à points voulu par le gouvernement, ces caisses devraient disparaître et leur contenu versé au régime universel. Inacceptable pour les manifestants. Le reportage de Marie Viennot.
Les robes noires posent pour les photographes sur les marches de l'Opéra Garnier. Regroupés par barreaux de Béziers, de Toulouse, Valenciennes, Nantes, Brest, etc., ils portent des pancartes faites maison ou fournies par le barreau de Paris.
Alors on a cotisation en hausse, pension en baisse, un marché de dupes.
Retraite sacrifiée, défense en danger. On a cotisé tais-toi.
On est prêt, il y en a 200, je pense que ça devrait aller.
Bonjour monsieur. Donc, vous avez mis un t-shirt Che Guevara sur votre robe d'avocat.
Oui, parfaitement, parce que se voir spolier de 2,4 milliards qu'ont réservé nos anciens pour assurer un régime autonome de retraite, on ne se laissera pas faire. Ça fait des années que nous nous battons pour un certain nombre de choses. Ici, on vole dans notre portefeuille, ça suffit.
Spoliation, rapt, vol, les professions hétéroclites qui se retrouvent ensemble dans la rue refusent que le fruit de leur solidarité et prévoyance professionnelle ne disparaisse avec ces milliards. Jérôme est pilote.
On a une caisse de retraite qui fonctionne bien, qui est bénéficiaire. On n'a pas envie de se faire voler nos réserves et continuer à payer autant pour toucher moins.
Vous n'êtes pas dans la solidarité nationale ?
Solidarité nationale, on y contribue déjà beaucoup à travers l'impôt. Donc, on trouve qu'on en fait déjà suffisamment. À la fin de la fable, normalement, la cigale, elle braque pas la fourmi.
2 milliards pour les avocats, 7 milliards pour les médecins, 5 milliards pour les pilotes. Les sommes en jeu sont colossales et prouvent la saine gestion des caisses autonomes à l'opposé du régime général, fait valoir le docteur Talbot.
L'URSSAF est un trou sans fond, une administration dans laquelle on On n'a aucune prise, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas à qui s'adresser. Et dès qu'on a un problème avec URSSAF, c'est une horreur. La CARMF a 1,2% de frais de gestion, ce qui sont les frais de gestion les plus bas de toute la retraite complémentaire. Mais c'est pareil pour les salariés avec la GIRC et l'ARCO. Hein.
Nous ne sommes pas des régimes spéciaux, martèlent les manifestants, mais ces professions libérales n'excluent pas de s'allier un jour à eux si elles ne sont pas entendues.
Marie Viennot, le gouvernement qui doit aussi affronter la colère des syndicats des finances publiques qui appelaient à la grève aujourd'hui. Bercy prévoit de supprimer 5800 postes d'ici la fin du quinquennat. Selon Solidaires, premier syndicat du secteur, le mouvement a été très suivi en région. Entre 40 et 80% de grévistes. Illustration à Toulouse avec ce reportage de Stéphanie Glésis.
Moins d'accueil pour les particuliers comme pour les maires ou un accueil low cost avec des personnels qui ne sont pas des impôts. Voilà comment les agents des finances publiques résument la réforme de Gérald Darmanin. Parmi les manifestants, Serge Morins, président de la communauté de communes d'Autrive près de Toulouse.
Pour la proximité, ils souhaitent que ce soit les communautés de communes qui remplacent donc le service public. Mais par contre, ils vont envoyer toute la comptabilité de nos communes. Ils vont l'envoyer à Muret en faisant une plateforme avec des gens moins nombreux, avec beaucoup plus de travail, puisqu'il y aura en plus Senlis, Rium, Haute-Rive, Muret. Donc c'est quand même très difficile de croire que tout va s'arranger. On est en train de tuer le service public.
Pour Régis Lagrifoul de l'intersyndicale Finances publiques de Haute-Garonne, c'est l'usager qui va payer les pots cassés.
Notre administration donc regroupe toutes ses missions dans des structures industrialisées, alors qui seront des plateformes pour gérer les budgets des collectivités locales. Et dans le même temps, pour les services fiscaux pour les particuliers et les professionnels, on regroupe également les services existants. Ils disent qu'ils veulent imposer le fait que l'accueil sur rendez-vous soit la modalité unique.
Élus et syndicats dénoncent avec cette réorganisation territoriale une vie plus compliquée pour les particuliers, les commerçants ou encore les maires.
Stéphanie Glésis à Toulouse. On va terminer ce journal à Vienne, la capitale autrichienne, qui vient à nouveau d'être distinguée comme la ville la plus agréable à vivre dans le monde par l'hebdomadaire anglais The Economist. L'une des clés du succès viennois, c'est peut-être son image de capitale du loyer modéré. À Vienne, près de 80% des habitants sont locataires et selon le cabinet Deloitte, ils déboursent en moyenne 9,80€ par mètre carré pour se loger. C'est trois fois moins qu'à Paris. Il faut remonter 100 ans en arrière pour comprendre cette réussite. Le reportage à Vienne d'Isorias.
Lors de la période de Vienne-la-Rouge, de 1919 à 1934, les sociaux-démocrates font construire plus de 60 000 logements pour les classes populaires. C'est le début d'une politique sociale qui perdure un siècle plus tard, alors que la gauche n'a quasiment jamais quitté le pouvoir à Vienne. Aujourd'hui, en effet, la ville compte 220 000 logements communaux, c'est-à-dire des logements sociaux qui appartiennent à la municipalité. Situés en ville et non en banlieue, ils sont accessibles aux plus précaires, mais aussi à ceux qui gagnent jusqu'à 3 300€ par mois afin de favoriser la mixité sociale. Christian vit dans l'une de ses habitations depuis 30 ans.
Je paye chaque mois 290€ pour ce 58 mètres carrés. L'appartement n'est pas très grand pour deux, mais je m'y sens bien.
Son appartement est situé au Karlsheitshof, immense complexe de 25 000 mètres carrés construit entre 1926 et 1931, finement décoré et aux nombreux espaces verts.
Les alentours sont super, il y a de la nature. C'est agréable de vivre ici.
À ces logements communaux s'ajoutent 200 000 appartements construits par des promoteurs qui proposent des loyers modérés en échange d'une aide financière de la ville. Résultat, 60% des Viennois vivent aujourd'hui dans une habitation à loyer plafonné. Et cela a des conséquences sur l'ensemble du marché locatif, explique Wolfgang Amann, directeur d'un institut de recherche spécialisé dans le logement.
Ces logements à loyer modéré sont très attractifs, en particulier pour les classes moyenne et les jeunes ménages, deux catégories également ciblées par le marché privé. Résultat, le marché privé et le marché des loyers modérés sont en concurrence et donc, dans le privé, l'évolution des prix est limitée.
Mais comme ailleurs, depuis 2008, les loyers ont fortement augmenté dans le privé. La ville de Vienne a donc récemment décidé d'imposer sur toute nouvelle construction de plus de 5000 m² deux tiers de logements subventionnés à loyer modéré. Cette forte intervention l'intervention des pouvoirs publics, parfois critiquée par la droite, est assumée par la municipalité.
On n'a pas une vision interventionniste négative, mais on a une vision étatique.
Boyan Schnabel travaille à l'unité de recherche sur le logement de la ville de Vienne.
Si on veut avoir une société mixte et intégrée, et stable et développée, il faut se donner les moyens du logement, tout simplement. C'est un droit fondamental.
Nul doute que la politique du logement social sera l'un des thèmes majeurs de la campagne pour les municipales qui auront lieu l'an prochain à Vienne.
Isor Yas, notre correspondante en Autriche. La météo demain, soleil et sécheresse toujours au programme sur presque tout le pays. À noter toutefois un ciel nuageux en début de journée au nord de la Loire, mais sans l'ombre d'une goutte digne de ce nom. Température minimale de 10 à 20 degrés du nord au sud. Les maximales oscilleront entre 18 et 35 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.